Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Les profondeurs de Vénus » de Derek Kunsken, lu par Philippe Smolikowski. Chapitre 1. 1er mars 2255 SI, 45 km au-dessus de la surface de Vénus. « On peut peut-être encore le rapiécer », dit son père en français par radio. Des éclairs distants crépitèrent dans la bande radio. Des gouttes d'acide sulfurique s'écrasèrent sur la visière du casque de Pascal. Il baignait dans une brume jaune. Les orages commençaient rarement si profonds sous les nuages, mais les plus gros pouvaient se frayer un chemin jusque-là. « Je nous donne 5 minutes !» dit Pascal. « 10, maximum !» « Donne-moi une !» Il sentit un frisson de peur dans son abdomen. Il jouait avec le feu, malgré ses estimations. Il se tenait sur la tête d'une des grandes plantes vénusiennes qui vivaient dans les nuages, ce qu'ils appelaient un chalutier. Toute la flottabilité de la plante lui venait de cette tête bulbeuse d'environ 5 mètres de large. Dessous pendait une longue queue, 40 mètres de fibres de carbone terminée par un lest en bois. Les chalutiers se promenaient dans les nuages de Vénus, voire dans la brume brûlante en dessous, leurs longs câbles en carbone attirant les éclairs et amassant des charges d'électricité statique. Georges-Étienne et ses enfants possédaient une douzaine de ces chalutiers, rassemblés en une flotte très étendue par des voiles réglables fixées sur leur tête. Des greffes de matériel supplémentaire les avaient tous transformés en usines minuscules. Les citernes et l'équipement hydraulique de celui-là permettaient d'obtenir de l'eau par craquage de l'acide sulfurique. Ils n'auraient pas dû plonger autant, mais ces pompes ligneuses tombaient en panne. Même si Pascal pouvait en traverser le sommet d'un bout à l'autre en 5 grandes enjambées, c'était une île, extrêmement précieuse pour survivre dans les nuages. Et cette île n'allait pas tarder à disparaître. « Minute !» dit Pascal. « Calice !» jura son père. « Sauvons ce qu'on peut sauver !» La brume était impénétrable. Le soleil brillait d'un orange spongieux à cet endroit-là. Et la visibilité se dégradait fortement au-delà de 1000 mètres. Peut-être un orage sévissait-il juste à côté d'eux sans qu'ils n'en voient rien. Un éclair crachota dans la bande radio, et le grondement du tonnerre parvint peu après jusqu'à eux. « Tabarnak !» jura de nouveau Georges-Étienne. « Bon, d'accord, passe-moi une corde. » La situation ne préoccupait pas moins Pascal. Il vendait de l'oxygène, de l'eau et les métaux lourds qu'il récupérait dans les cendres volcaniques au sein de la couche de nuages inférieurs, mais acheter un nouveau chalutier était au-dessus de leurs moyens, et en apprivoiser un sauvage n'avait rien de facile. Perdre celui-là ne ferait que les rendre d'autant plus pauvres. Pascal attacha la corde par son milieu au mât qui se dressait au sommet du chalutier. En fit descendre une extrémité à Georges-Étienne, tandis qu'il nouait l'autre à un sac gonflable. La moitié inférieure ne tarda pas à se tendre, écrasant en partie les mauvaises herbes noires tout en longueur qui colonisaient l'extérieur des chalutiers. Tirant sur la corde, Pascal remonta une cuve métallique luisante du gel hydrofuge à pH élevé qui la protégeait de la pluie d'acide sulfurique. Un tuyau flexible sortait de son sac. Il en connecta une extrémité à la cuve et l'autre au sac, pour qu'il se gonfle d'oxygène. En attendant que cela se fasse, il affala la voile et dénoua toutes les cordes. Puis revint hisser 3 autres cuves et un récipient en bois tissé par leurs soins à partir des parois et résines d'anciens chalutiers. Il n'aurait pas le temps de transformer en quoi que ce soit d'utile les restes de ce chalutier-là. « Pas ?» appela-t-il. « On a 6 minutes, tu penses ?» Le crachotement des éclairs dans la radio se succédait presque sans interruption. « Oui. »« Et si on coupait le câble ?»« On n'y arrivera jamais à temps,